Voice of Indonesia.
Bonsoir, chers auditeurs, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous. Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Selon le ministre indonésien du Commerce, le G20 espère qu'il y aura un effort pour réduire la tension de la guerre commerciale. Selon un chercheur, se concentrer sur l'éradication de la cybercriminalité renforce le rôle du commerce électronique. L'Indonésie et l'Australie sont d'accord pour accélérer la ratification du CEPA. L'Indonésie affirme son engagement à renforcer la sécurité de la navigation. Le temple de Prambanan dispose d'un accès pour les personnes handicapées. L'agriculture améliore le bien-être des gens. Cher ami, nous présentons maintenant le journal complet. Le ministre indonésien du Commerce, M. Enggar Tias Tolukita, a déclaré que le forum du G20 avait pour objectif de réduire la tension de guerre commerciale qui pourrait potentiellement perturber le commerce mondial. C'est ce qu'a déclaré le ministre Enggar Tias Tolukita, cité par l'agence de presse Antara, en mars de la réunion ministérielle du G20 sur le commerce et l'économie numérique à Shizuoka au Japon dimanche. Le ministre a déclaré que cet effort avait été mis en œuvre pour que la croissance du commercial mondial ne ralentisse pas comme le prévoyait l'Organisation mondiale du commerce ou l'OMC. L'OMC prévoit que le commerce mondial en 2019 ne progressera que 2,6% ou diminuera de 4,0% en 2017 et 3,6% en 2018. Pour cette raison, des efforts doivent être faits pour réduire la tension de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine afin que le monde entier ne connaisse pas de stagnation des échanges. Galu Oktania in Researchers au Centre d'études politiques indonésiennes a déclaré que si le gouvernement mettait l'accent sur la lutte contre la cybercriminalité, il augmenterait également sa contribution ou le rôle du secteur du commerce électronique dans l'économie nationale. C'est ce qu'a déclaré Galu Oktania dans le communiqué de presse cité par Antara Jakarta dimanche. Selon Galu, elle a aussi entraîné tant de gens qui choisissent encore à venir directement pour voir les produits et se retrouver face à face avec le vendeur. En outre, elle a souligné que le gouvernement doit faire attention à la facilité et à la sécurité des achats et des transactions en ligne. En outre, il a également souligné que les transactions financières en ligne pouvait constituer une alternative du gouvernement afin d'accroître l'inclusion financière, qui est une forme d'approfondissement des services financiers utilisant la numérisation. Le gouvernement indonésien et l'Australien ont accepté d'accélérer la ratification de l'accord de libre-échange ou CEPA ou l'accord de partenariat économique global dont le processus est toujours en cours. Comme l'a déclaré le ministre indonésien du Commerce, M. Enggar Tias Tolukita, lors d'une réunion au Japon dimanche. C'était l'un des points de discussion lors d'une réunion bilatérale entre le ministre indonésien du Commerce et le ministre du Commerce, du Tourisme et de l'Investissement de l'Australie, Simon Birmingham, en marge de la réunion ministérielle du G20 sur le commerce et l'économie numérique. Le ministre Ingertia Solukita a assuré que la ratification de l'accord de libre-échange pourrait accélérer l'engagement d'accroître la coopération de commerce et d'investissement entre les deux pays, ce qui était bien établi. L'engagement entre les deux pays a été convenu depuis le début du mois de mars et attend actuellement que le processus de ratification soit mis en œuvre immédiatement. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. L'Indonésie est l'un des pays maritimes au littoral le plus long du monde, montre à nouveau son rôle actif dans les efforts visant à améliorer la sécurité et la sûreté des transports maritimes. Le rôle actif entre eux en envoyant une délégation à l'Organisation maritime internationale aux réunions du Comité de la sécurité maritime tenues à Londres en Angleterre du 5 juin au 14 juin. À cette occasion, l'Indonésie a envoyé une délégation présidée par l'ambassadeur d'Indonésie à Londres, Rizal Sukma, et par l'ambassadeur adjoint d'Indonésie à Londres, Adam M. Tugyo. L'attaché de transport indonésien à Londres, Lolan Panjaitan, a déclaré récemment que lors de la session, la délégation indonésienne a donné la priorité à la discussion du programme principal, à savoir, entre autres, l'étude de la discussion sur la rédaction du règlement de l'instrument de l'Organisation maritime internationale relatif à la sécurité dans la mise en œuvre de carburant à faible teneur en soufre, entré en vigueur en 2020. Dans sa déclaration reçue par Republica Online le dimanche, Lolan a expliqué que le Comité de la sécurité maritime est l'organe technique suprême de l'Organisation maritime internationale qui a le pouvoir à effectuer des tâches déléguées de la Convention de l'Organisation maritime internationale. Le directeur général de PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan et Batu Boko, M. Aryono Hendro M., a déclaré qu'un objet touristique du temple de Prambanan situé à la frontière entre la région de Sleman, la région spéciale de Yogyakarta et la région de Klaten pendant les vacances de l'Idul Fitr 2019 offre un accès aux personnes handicapées. Comme cité par Republika Online, Aryono Hendro M. a déclaré à Sleman dimanche que la facilité d'accès était une voie spéciale pour les personnes handicapées utilisant le fauteuil roulant pour explorer la région de Prambanan. En outre, il a expliqué que son équipe déploie également des volontaires et une équipe médicale pour aider les personnes nécessitant un traitement et préparer deux ambulances dans la zone du temple de Prambanan. Ketut Karyasa, directeur du Centre des données et des informations agricoles du ministère indonésien de l'Agriculture, a déclaré que le développement des infrastructures, notamment la construction de routes pouvant réduire le nombre d'incidents de la route en 2019 ne constituait pas le seul accomplissement du gouvernement du président Joko Widodo. Il a ajouté que le gouvernement de Jokowi et Yusuf Kalla avait toujours établi des résultats positifs en matière de développement de bien-être économique à travers des politiques et des programmes de développement agricole. Au cours des quatre dernières années de l'administration de Jokowi, à savoir 2014 jusqu'à 2018, la prospérité de la société rurale qui vit principalement du secteur agricole s'est améliorée. Ketut Karyasa, cité par Republika Online dans son communiqué de presse dimanche, a souligné que la répartition de revenus de la société rurale est meilleure que celle des habitants des villes. Cela est marqué par l'indice de Gini dans les zones rurales qui est toujours inférieur au taux urbain. En outre, Ketut Karyasa a expliqué plusieurs indicateurs qui déterminent l'évolution de la répartition de revenus des populations rurales, telles que l'augmentation du pouvoir d'achat ou du bien-être social et la réduction de l'écart de revenus. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Voice of Indonesia.
Merci d'être fidèle à la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « Le crédit bancaire continue de croître dans un contexte de ralentissement économique mondial ». Dans le cadre de la réduction de projections de croissance économique mondiale par les institutions internationales, l'Autorité indonésienne des services financiers, ou OJK, est optimiste que la croissance antérieure restera positive. Selon M. Wimbo Santoso, le président du Conseil de commissaires de l'Autorité indonésienne des services financiers, la dynamique de l'économie mondiale manque d'influence directe sur l'Indonésie. Actuellement, la demande de biens et de services destinés à la consommation antérieure reste dominante pour soutenir la croissance économique indonésienne. Le taux de croissance du crédit reflète la transmission de l'économie nationale, notamment en termes de consommation antérieure. La croissance plus élevée du crédit indique que le climat d'expansion des affaires en Indonésie est toujours passionnant. L'Indonésie ne peut pas trop dépendre de l'investissement. Il faut également maintenir les exportations vers un certain nombre de pays. Concernant la guerre commerciale entre les principaux pays qui restent chauds, l'Indonésie doit continuer à chercher de nouveaux marchés à des fins d'exportation en tant que l'un des composantes de la croissance économique. Selon les dernières données de la Banque d'Indonésie en mars 2019, la croissance moyenne du crédit bancaire atteignait 11,5% a diminué par rapport en février 2019, qui a atteint 12,1%. Cependant, la Banque d'Indonésie estime que la croissance du crédit bancaire en 2019 entre 10 jusqu'à 12%. Que faut-il faire pour maintenir et encourager la croissance? L'Autorité des services financiers doit soutenir diverses politiques gouvernementales qui fournissent l'incitation afin d'améliorer la compétitivité des produits indonésiens sur le marché mondial. On espère qu'à l'avenir, les exportations indonésiennes ne seront plus trop dépendantes de la Chine qui implique à la guerre commerciale avec les États-Unis. C'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Voice of Indonesia.
Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 10 juin 1942, des soldats allemands ont tué des habitants de Lidice en représailles du meurtre du lieutenant de nazi Reinhard Heydrich. Lorsqu'il a entendu dire que Reinhard Heydrich, l'un des membres de nazis les plus violents, avait été tué, Adolf Hitler était furieux et immédiatement ordonné une enquête approfondie. Le service de renseignement relie les tueurs à un village appelé Lidice, situé à 22 km au nord-ouest de Prague. Pour donner une leçon afin qu'un événement similaire ne se répète pas, Hitler a ordonné l'exécution de résidents masculins adultes et les femmes déportées dans des camps de concentration. Les enfants aux cheveux blonds et aux yeux bleus sont séparés de leur famille et adoptés par des familles allemandes. Des maisons ont été brûlées et les débris nivellés. Le 10 juin 1947, l'accord d'amitié entre la République d'Indonésie et l'Égypte a été signé au Caire. Le président indonésien Sukarno a envoyé une mission diplomatique en Égypte en représailles de l'arrivée du consul général d'Égypte à Bombay, Abdul Munim, qui s'était rendu à Yogyakarta quelques mois auparavant. Une mission diplomatique dirigée par le ministre des Affaires étrangères, Haji Agus Salim, est chargé de mobiliser un soutien de faveur de l'indépendance de l'Indonésie au monde international et de signer un accord d'amitié entre l'Égypte et l'Indonésie. L'accord d'amitié, la politique et le commerce entre les deux pays a été signé par le ministère des Affaires étrangères égyptien. Le parti égyptien était représenté par le premier ministre Nokrashi Pacha, qui est également ministre égyptien des Affaires étrangères, et la partie indonésienne par Agus Salim. Avec la signature de l'accord d'amitié, il renforce encore la souveraineté de l'Indonésie en tant que l'État indépendant. L'Égypte est le seul pays à reconnaître la souveraineté de l'Indonésie de facto et de jure à cette époque. Cet accord constitue la première victoire de la diplomatie indonésienne à l'étranger et l'incapacité des Pays-Bas d'empêcher la reconnaissance de la souveraineté indonésienne à l'étranger. Le 10 juin 2009, l'inauguration du pont Suramadu entre l'île de Madura et l'île de Java. Le pont national Suramadu est un pont qui traverse le détroit de Madura et relie Java et l'île Madura. D'une longueur de 5438 mètres, ce pont est aujourd'hui le plus long pont de l'Indonésie. Se compose de trois parties, à savoir le pont aérien, le pont de connexion et le pont principal. Le pont a été officiellement ouvert par le président Megawati Sukarnoputri le 20 août 2003 et le président Susilo Bambang Yudhoyono le 10 juin 2009. La construction du pont est destinée à accélérer le développement de l'île de Madura, couvrant l'infrastructure et l'économie qui étaient retardées d'autres régions à Java-Est. Comme elle relie les deux îles, la technologie utilisée pour la construction du pont Suramadu est conçue pour permettre aux navires de passer sous le pont. Chers amis, c'était l'histoire aujourd'hui.
Maafkan aku tak bisa memahami maksud amarahmu, membaca dan mengerti isi hatimu. Ampuni aku yang telah memasuki kehidupan kalian, mencoba mencari celah dalam hatimu. Aku tahu ku takkan bisa menjadi seperti yang engkau minta, namun selama nafas berembus, aku kan mencoba menjadi seperti yang kau minta. Ampuni aku yang telah memasuki kehidupan kalian, mencoba mencari aku takkan bisa
Chers auditeurs, c'était la chanson intitulée « Comme vous demandez » chantée par Virza. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, d'Indonésie pour le monde, et voici donc mon Indonésie. Chers auditeurs, voici donc mon Indonésie et pour le titre, l'Indonésie et l'Australie ont convenu d'accélérer la ratification de CEPA. Les gouvernements indonésiens et australiens ont convenu d'accélérer la ratification d'un accord de partenariat économique global, CEPA, dont le processus est toujours en cours. Le ministre du Commerce, Enggartiasto Lukita, a déclaré dimanche à Tsukuba, au Japon, que CEPA était en cours de traitement et devrait être ratifié cette année, afin qu'en 2020, il puisse être mis en œuvre. C'était l'un des points de discussion d'une réunion bilatérale entre le ministre indonésien du Commerce et le ministre australien du Commerce, du Tourisme et de l'Investissement, Simon Birmingham, en marge de la réunion ministérielle du G20 sur le commerce et l'économie numérique. Selon l'agence de presse Antara, le ministre Enggartiasto a confirmé que la ratification de CEPA pourrait accélérer l'engagement de l'intensification de la coopération en matière de commerce et d'investissement entre les deux pays. Enggartiasto a expliqué que l'accélération de cette ratification est également due aux encouragements du monde des affaires d'Indonésie qui est tout aussi bien que celui d'Australie. Un autre point de discussion mené avec l'Australie concernait les négociations en cours sur le partenariat économique global régional RCEP entre les 16 pays membres. Négocier les engagements de libre échange lancés en novembre 2012 n'est pas facile de s'efforcer, car chaque pays a toujours ses propres intérêts. Selon Enggartiasto, l'Indonésie demande à l'Australie d'être flexible et les exigences ne sont pas trop élevées. En outre, l'Inde a un nouveau ministre du Commerce. La Thaïlande, comme présidente de l'ASEAN, attend également un nouveau cabinet. Une autre discussion est sur l'importance des réformes de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, de sorte que l'organisation ait une grande valeur des négociations pour résoudre des différends commerciaux. À cette occasion, le ministre du Commerce, Enggartiasto Lukita, a également tenu une réunion bilatérale avec le vice-ministre du Commerce de la République populaire de Chine, Wang Shuwen. L'un des sujets qui devient le sujet de discussion est la facilité d'exportation des nids de rondelles, des produits agricoles et de la pêche, ainsi que des fruits tropicaux vers la Chine. D'autres discussions ont eu lieu au sujet du suivi de l'accord concernant la création d'un groupe de travail sur le commerce entre l'Indonésie et la Chine. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
Voice of Indonesia.
Jangan kau khawatir sahabatku, langit tak selamanya kelabu. Bila sang mentari telah bersinar, esok kita kan berlayar lagi. Seakan tak lepas dari jalanmu, mengurung semua ruangmu, dan hanya kecewa jadi pijakan. Kini ku kan ada di sampingmu. Langit tak selamanya kelabu.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson intitulée Naviguer à nouveau, chantée par The Cinnamons. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Bonsoir, chers auditeurs. C'est un plaisir de vous rencontrer à nouveau dans le magazine culturel, un programme quotidien sur le tourisme, l'alimentation ainsi que les arts et la culture de diverses régions d'Indonésie. Dans l'édition d'aujourd'hui, je vais vous inviter à connaître la danse Trunajaya de Bali. Chers auditeurs, la danse Trunajaya est l'une des danses de la nouvelle création de Bali, précisément la résidence de Buleleng, au nord de Bali. La danse est créée en 1915 par Pan Wandres dans le cadre de Kebiar Legong, puis affinée à nouveau par I Gede Manik, artiste bien connu de Bali. La danse Trunajaya décrit plus en détail le mouvement des jeunes qui deviennent adultes, très émotionnels, leur attitude qui tente toujours d'attirer le cœur des femmes. La danse est un spectacle de divertissement qui permet d'être représenté partout, y compris dans la cour du temple, sur le terrain, sur la scène fermée ou ouverte ou dans d'autres lieux. Chers auditeurs, dans l'histoire, la danse Trunajaya ne peut pas être séparée de la danse Kakebiaran, ce qui signifie qu'elle est proche du Kebiar. On l'appelle comme ça car la danse n'est pas seulement accompagnée de gamelan gong Kebiar, mais son mouvement est très dynamique et ressemble à du Kebiar. Le développement de gong Kebiar, qui était à l'origine en 1920, attiré par un rythme dynamique et moderne. Gong Kebiar est aimé par des gens, en particulier des jeunes, et se répand rapidement dans tout Bali. D'ailleurs, depuis que Imaria créé la danse Kebiar. Dans la résidence de Buleleng, les gens sont très enthousiastes à l'arrivée de Gong Kebiar, attirant même l'attention particulière des colonisateurs hollandais de cette époque. L'existence de Gong Kebiar dans la région a encouragé l'apparition de différents types de nouveaux mouvements de danse qui utilisent le gamelan comme accompagnement de la danse. Initialement, cette danse est une danse unique qui est incluse également dans la danse Babancian, car elle présente des caractéristiques féminines et masculines. Au fil du développement, la danse Trunajaya est interprétée par plus d'un danseur. La danse a une durée flexible. La durée la plus courte de la danse est d'environ 11 minutes. Chers auditeurs et auditrices, c'était le magazine culturel pour ce soir avec le titre « La danse Trunajaya de Bali ». Demain, nous nous retrouverons avec un sujet plus intéressant encore. À bientôt!
Voice of Indonesia.
Sempat tak ada lagi
Saya cerita setelah sang dafgan ang titule ang mene monamor. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde. Pour la rubrique suivante, voici donc à prendre l'Indonésien ang titule Kamu sedang apa?
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous, nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique Apprendre l'Indonésien, un programme qui introduit le vocabulaire de la langue indonésienne et vous guide de parler indonésien. Ce programme est une collaboration entre la Voix d'Indonésie et l'Agence pour le développement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est « Kamu sedang apa ?» ou en langue française « Qu'est-ce que tu fais ?» Ensuite, je vais donner un exemple de conversation ayant pour titre « Kamu sedang apa ?» ou en langue française « Que tu fais ?» Tony et Dinda regardent les photos de leur mariage. Joko vient et les salue.
Joko, kalian sedang apa? Dinda, kami sedang melihat foto pernikahan kita. Tony, ya, kamu masih sangat muda dalam foto ini. Joko, sekarang aku masih muda juga kan?
Chers auditeurs, après avoir écouté cette conversation, je vais introduire les expressions et le vocabulaire sur le thème d'aujourd'hui, à savoir Kamu sedang apa? Kamu sedang apa? En français, qu'est-ce que tu fais? Je vais prononcer deux fois et vous pouvez répéter après moi. Kamu sedang apa? Kamu sedang apa? En français, qu'est-ce que tu fais? Kalian sedang apa? Kalian sedang apa? En français, qu'est-ce que vous faites? Photo, photo. En français, photo. Kami sedang melihat foto pernikahan kami. Kami sedang melihat foto pernikahan kami. En français, nous regardons notre photo de mariage. Kami masih sangat muda dalam foto ini. Kami masih sangat muda dalam foto ini. En français, tu es encore très jeune sur cette photo. Sekarang aku masih muda juga kan? Sekarang aku masih muda juga kan? En français, maintenant je suis encore jeune, n'est-ce pas? Ibu sedang apa? Ibu sedang apa? En français, qu'est-ce que tu fais, maman? Kamu sedang apa waktu aku menelpon? Kamu sedang apa waktu aku menelpon? En français, que fais-tu quand j'appelle? Gempa ou gempa bumi? Gempa atau gempa bumi? En français, tremblement de terre. Belajar, belajar. En français, étudier. Membaca buku, membaca buku. En français, lire des livres. Olahraga, olahraga. En français, les sports. Mandi, mandi. En français, prendre une douche. Dans le dialogue, vous entendez, kalian sedang apa? Kalian sedang apa? En français, qu'est-ce que tu fais? La question est posée lorsque vous souhaitez connaître les activités réalisées par l'autre personne. Kamu sedang apa? Kamu sedang apa? En français, qu'est-ce que tu fais? Dia sedang apa? Dia sedang apa? En français, qu'est-ce qu'il fait? Ibu sedang apa? Ibu sedang apa? En français, qu'est-ce que tu fais, maman? Si vous voulez poser des questions sur les activités que quelqu'un a faites dans le passé, ajoutez une description du passé, exemple, kamu sedang apa waktu aku menelpon? Kamu sedang apa waktu aku menelpon? En français, que fais-tu quand j'appelle? Kalian sedang apa ketika terjadi gempa? Kalian sedang apa ketika terjadi gempa? En français, que faisiez-vous pendant le tremblement de terre? Les phrases kalian sedang apa ou sedang apa kalian sont similaires. Tous les deux peuvent être utilisés. La phrase réponse à la question est aku sedang mandi waktu kamu menelpon. Aku sedang mandi waktu kamu menelpon. En français, je prends une douche quand tu appelles. Kami sedang belajar ketika terjadi gempa. Kami sedang belajar ketika terjadi gempa. En français, nous étudions lorsqu'un tremblement de terre se produit. Les autres exemples. Kamu sedang apa? Kamu sedang apa? En français, qu'est-ce que tu fais? Saya sedang membaca buku. Saya sedang membaca buku. En français, je lis un livre. Kemarin aku menelpon kamu tidak diangkat. Kemarin aku menelpon kamu tidak diangkat. En français, hier je t'ai appelé mais ça n'a pas été capté. Ya, maaf, kemarin aku sedang olahraga. Ya, maaf, kemarin aku sedang olahraga. En français, oui, désolé, hier j'étais le sport. Chers auditeurs, avant de terminer, apprendre l'indonésien aujourd'hui, pour plus de détails, écoutons l'exemple de la conversation encore une fois.
Joko, kalian sedang apa?
Dinda,
kami sedang melihat foto pernikahan kita.
Tony,
ya, kamu masih sangat muda dalam foto ini.
Joko, sekarang aku masih muda juga kan?
Chers amis, c'est la rubrique Apprendre l'indonésien pour ce soir. Que cette rubrique soit utile pour vous qui voulez connaître davantage la langue indonésienne. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Yeah.
Chers auditeurs, c'était la chanson intitulée « Il n'y aura pas d'autre amour » chantée par Dewa. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, d'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec les informations musicales.
Voice of Indonesia.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, comme d'habitude, avant de terminer cette émission, nous allons présenter une chanson indonésienne. Et cette fois, nous allons présenter une chanson chantée par Hetty Koes Endang. La chanson intitulée « Notre amour » et le genre pop-rock a été popularisé par la rocker indonésienne Inka Christie et Amy Search, le chanteur malaisien en 1991. La chanson a été de nouveau chantée par Hetty Koes Endang avec le genre croncong moderne. Elle décrit les sentiments amoureux et l'auteur de cette chanson veut décrire le pouvoir de l'amour entre les deux personnes. Bon, chers amis, écoutez maintenant une chanson intitulée « Notre amour » chantée par Hetty Koes Endang.
Walaupun harus ku terjang lautan bara, demi cintaku padamu, ke gunung ku ikut denganmu, biarpun harus
Voice of Indonesia.
Sakiti hatiku antara.
C'est l'heure du talk, c'est l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.